Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. Pour cet épisode, nous commençons par deux surprises. La première, c'est que les habitués de l'émission ont bien sûr remarqué que c'est pas Denis Chagnon qui est au micro, mais plutôt moi, Michel O'Neill, votre serein pèlerin, qui agit habituellement comme collaborateur et chroniqueur. La deuxième surprise, c'est que le premier segment de notre rencontre d'aujourd'hui va justement être consacré à mieux vous faire connaître Denis, qui anime dans l'ombre et la modestie depuis les débuts, marcher vers le bien-être. Comme vous le verrez, c'est non seulement un grand marcheur depuis toujours, mais aussi quelqu'un qui a décidé de consacrer une partie importante de son activité de retraité à faire la promotion de la marche au quotidien à travers son projet « Je marche partout ». L'émission en est une composante importante, mais vous allez voir que c'est loin d'être le seul élément. Alors, bonjour Denis et bienvenue à votre émission.
Bonjour Michel, et j'aurais dit bonjour à votre émission également.
Alors, en seconde partie, je vais rendre son micro à Denis en tant qu'animateur et il va échanger avec un autre passionné de la marche au quotidien depuis longtemps, Michel Hamelin, qui habite à Lévis sur la rive sud de Québec. Comme Denis, c'est un grand marcheur depuis longtemps et lui aussi, il travaille depuis plusieurs années à promouvoir les bienfaits de la marche en mettant sur pied divers types d'activités qui permettent à toutes sortes de gens de marcher en nature. Pandémie oblige, nous allons faire notre émission d'aujourd'hui en nous promenant entre Lévis, où Michel Hamelin se trouve, et Québec, où je suis, avec à Montréal, Denis qui tient le fort avec le technicien Daniel Fortin à partir du studio de Radio VN. Alors, bonjour Michel Hamelin et bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci de cette belle invitation, je suis heureux d'être là.
Alors, on reviendra à vous dans quelques minutes, mais en attendant, commençons par Denis. Denis, vous êtes né à Ottawa, vous y avez passé votre enfance, fait vos études et commencé votre vie professionnelle, notamment à la radio de Radio-Canada. Alors, comment la marche a-t-elle fait partie de votre vie durant ces premières années?
Ah, c'est une belle question, Michel. Écoutez, j'ai l'impression que la marche a toujours fait partie de ma vie, dans le fond. Et je remonte très loin, c'était à la fin des années 48, début des années 50. Je marchais pour aller, comme tous les jeunes de l'époque, à l'école primaire. Et ensuite, c'était la même chose pour me rendre à l'école secondaire et par la suite à l'Université d'Ottawa, qui était assez près parce que nous habitions dans la basse ville d'Ottawa, donc qui est une paroisse assez dense et une paroisse... à pratiquement à 98% francophone, donc c'était vraiment un bastion de la francophonie dans la grande ville anglaise, en fait, d'Ottawa. Et puis, au fil des années, c'est moi qui faisais les courses beaucoup à la maison, j'allais au IGA, je faisais en fait les courses aussi pour une vieille tante du nom de Ida, et qui habitait la Côte de Sable, juste en haut de la basse ville. Et toutes les semaines, tous les samedis, j'allais faire à pied ses courses, et en fait, toutes les courses de la maison. Et puis aussi, j'étais enfant de cœur, comme plusieurs d'entre nous à l'époque, donc c'était la marche tous les matins ou presque pour aller à la magnifique cathédrale d'Ottawa. Il y avait aussi le scoutisme et les sorties avec les amis, on allait jouer au parc et tout. Et en fait, un petit peu plus tard en ville, Radio-Canada, où j'ai commencé ma carrière de radio, de communication, c'était au studio de Radio-Canada au Château-Laurier à Ottawa, donc tout près de la basse ville. Et puis, c'est en sorte l'environnement qui m'a conduit à marcher un peu tous les jours. Et puis, okay. ce contexte de la basse ville, en fait, m'a permis de marcher un peu partout. Et j'oubliais, mon grand-père était probablement mon plus grand modèle parce que lui-même marchait une dizaine de milles par jour, les milles à l'époque. Donc, le matin, il allait à la messe, revenait, le petit déjeuner, allait travailler le midi, revenait pour le lunch, le soir la même chose, et après le souper le soir, c'était une marche de santé. Donc, pour ainsi dire, jusqu'à mes premières armes dans les communications et le monde du travail, c'est la marche qui me promenait partout, pour ainsi dire.
OK. Et par la suite, votre carrière d'animateur radiophonique vous a amené outre-Atlantique. Alors, vous avez travaillé pendant quelque temps à la radio des forces canadiennes en Allemagne. Alors, comment ça marchait en Europe?
Bon, ça marchait très bien, Michel. Écoutez, c'était à l'heure en Allemagne, sur la base militaire canadienne là-bas. J'étais animateur de radio, justement. Et c'est une expérience extraordinaire pour marcher un peu partout. Écoutez, nous avions l'occasion de visiter tous les pays de l'Europe, ce que nous avons fait, une bonne dizaine de pays, en fait. Et c'était vraiment un plaisir de voyager dans les petits villages, les campagnes, à pied toujours. J'ai de très, très bons souvenirs, par exemple, de promenades, de randonnées en montagne en Suisse. Je garde d'excellents souvenirs des sentiers que l'on retrouve parmi les monts les plus hauts, les montagnes les plus hautes d'Europe, en Autriche, les refuges de montagne et ainsi de suite. Et puis, c'était une très, très belle façon de découvrir l'Europe. Il faut dire que en Europe, la marche fait partie de la culture. En fait, il y a des clubs de randonnée qui sont positionnés un peu partout. Les territoires sont balisés dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. On nous donne des cartes, des parcours bien organisés. Et c'est encore une fois une belle façon de se donner le goût de la marche, d'explorer la nature, d'explorer les forêts.
Alors, en Europe, dans le fond, vous avez continué l'habitude que vous aviez prise quand vous étiez jeune et finalement, vous êtes revenu à Montréal après cet intermède européen et puis vous avez occupé pendant des décennies jusqu'à votre prise de retraite les postes de directeur de communication d'abord à Air Canada et puis à l'organisme des Nations Unies en charge de l'aviation civile, l'OACI. Pas mal flyé, votre affaire. Et vous avez pu continuer à marcher au quotidien. Pareil, dans des postes comme ça, dans le fond, c'est des postes à haute intensité. Puis est-ce que vous avez encore quand même le temps de marcher?
Bon, en fait, oui. Et c'était une occasion, en fait, de maîtriser le stress. Et je m'explique, j'habite le Vieux-Longueuil et l'OACI Air Canada, à l'époque, était situé au centre-ville de Montréal. L'OACI l'est toujours, d'ailleurs. Alors, je me rendais à pied tous les jours. Et mon parcours était le suivant. Je marchais de ma résidence dans le Vieux-Longueuil jusqu'au métro Berry. Et ensuite, du métro Berry, je marchais au centre-ville d'Ottawa, de Montréal plutôt, jusqu'à Air Canada ou encore après l'OACI. Et ça me prenait environ une heure, donc 5-6 kilomètres. Et pour le retour, c'était la même chose. Donc, assez facilement, Michel, j'ai pris l'habitude ou j'ai poursuivi l'habitude de marcher. Et ce parcours me permettait de compléter mes 10-12 kilomètres par jour. Et en fait, ce que je faisais, Michel, on parlait de stress tout à l'heure, le matin, en allant au bureau, je travaillais dans ma tête, je préparais des discours, des communiqués de presse, alors me rendant au travail, c'est comme si c'était mon deuxième bureau. Et le soir au retour, c'était le contraire, c'était le temps de me détendre, de me déstresser. Je fais le ménage de la journée. Et c'était une formidable occasion de méditer, de me détendre, justement. Donc,
toute votre vie active, donc, a été incluant la marche au quotidien de votre tendre enfance, finalement, jusqu'à votre prise de retraite. Et quand vous avez pris votre retraite, en fait, vous avez décidé de publier un ouvrage au titre un peu particulier, très évocateur, « L'homme qui marche partout ». C'est probablement vous un peu aussi, là. Pouvez-vous nous expliquer d'où est venue cette idée-là de publier ce livre-là et vous expliquer un peu ce qu'il contient?
Oui, ben avec plaisir, en fait. Et c'est là, en fait, ce petit livre qui était aussi l'inspiration pour cette émission de radio « Marcher vers le bien-être ». Le tout a commencé il y a quelques années. Je faisais un peu de jogging sur la piste cyclable dans le Vieux-Longueuil et tout à coup, j'ai aperçu ce vieux monsieur qui se penchait, observait deux canards dans l'eau. il y avait une flaque d'eau sur le bord de la piste cyclable. Et puis, il l'y fixait très intensément. Puis, j'ai continué mon parcours. Et puis, par la suite, j'avais toujours eu l'idée, en fait, d'écrire un livre, mais il y a eu comme un déclic à ce moment-là. Et j'ai commencé à rédiger mon livre. Et ce monsieur est devenu le personnage central de mon livre. Donc, je me suis transposé sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Longueuil et j'ai simulé cette rencontre avec ce vieux monsieur et je l'ai appelé Francesco Crosato. Et dans le livre, on s'est mis à jaser un peu sur la marche et puis il m'interpelle, il me dit « Monsieur, la marche vous intéresse? » J'ai dit « Oui, beaucoup. » Alors, il m'a raconté, en fait, les bienfaits de la marche. Il m'a expliqué que depuis sa retraite à lui, il passait le plus clair de son temps à promouvoir la marche à pied. Et
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
C'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, il a réuni ses bienfaits de la marche. Il y en a 7, en fait, et je pourrais les décrire assez rapidement. Et le premier, ben, en fait, c'est l'activité physique par excellence. Et on le sait, la marche, elle est gratuite, elle est accessible, elle est excellente pour le bien-être physique et aussi mental. Alors, c'est une source de bien-être, en fait, un esprit sain dans un corps sain, pour ainsi dire. Et c'est aussi un laboratoire à idées que l'on discutait, ou qu'il discutait avec moi. Et puis, ce bienfait, il est assez étonnant. Par exemple, vous en avez fait sûrement l'expérience, Michel, lorsque vous sortez de la maison, parfois, vous allez prendre une petite marche, les idées sont un petit peu brouillées, vous pensez à des choses, des problèmes, des situations, des choses comme ça, et tout à coup, hop, les idées se clairent un peu. Il y a une solution qui survient. Il y a parfois de nouvelles idées qui vous viennent en tête. Donc, en quelque sorte, la marche, c'est aussi un laboratoire à idées, qu'on appelle.
Et tout ça s'insère dans un fameux cercle de la marche qu'on retrouve dans votre ouvrage. Alors, parlez-nous donc aussi des autres éléments de ce fameux cercle.
Ben oui, c'est ça. Le cercle, en fait, les autres bienfaits que j'ai réunis dans ce cercle de la marche, il y en a un autre qui s'appelle « Aller vers les autres ». Donc, évidemment, quand on marche, on rencontre les voisins. Si on va faire les courses, par exemple, on salue les gens en passant. On prend des marches avec des amis, avec la famille. C'est le temps de s'amuser, de se dire toutes sortes de choses. Et même parfois, vous en avez peut-être fait l'expérience quand vous rencontrez, par exemple, un étranger sur la rue. Vous lui souriez, il vous sourit, et petit à petit, si vous le revoyez, ben, c'est bonjour. Et puis, c'est presque une façon de se faire des connaissances et même des amis parfois. Il y a un autre bienfait aussi, celui de se promener dans la nature. C'est une façon de bien connaître, d'apprivoiser la nature.
Oui, je crois qu'on va en parler abondamment avec Michel Amin tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous reste maintenant comme élément de votre cercle?
Ben, en fait, il y en a un autre qui s'appelle « Marcher, c'est méditer ». On le sait bien. En fait, la méditation vient avec la lenteur que l'on fait la lenteur de la marche. Et méditer nous permet de réfléchir à sa vie, en fait, et la façon dont on peut peut-être changer notre vie. Il y a une illustration dans la vie, par exemple, qui indique que lorsque on se pose certaines questions importantes sur l'état du monde, sur la consommation, sur la simplicité volontaire, en fait, ce sont toutes des questions qui peuvent nous venir en tête lorsque l'on médite.
OK. Est-ce que vous pouvez peut-être, Denis, juste nous énumérer les dernières composantes? Parce que je pense que vous y revenez tout à l'heure avec Michel Amelin et...
Oui, en fait, il y a une autre qui est intéressante aussi. Je l'appelle l'ultime liberté. C'est quand on marche. En fait, on peut se sentir complètement libre de se déplacer, de voyager, de penser, d'être libre, dans le fond, dans ces mouvements. Et une petite anecdote, au début, j'avais pensé à une pyramide de la marche. Et puis, par la suite, j'ai rencontré, lors d'un événement, le chef de Gawanagé, ici près de Montréal, et on parlait du cercle de la vie des Autochtones. Alors, j'ai pensé adapter les bienfaits de la marche au cercle de la marche.
OK. Alors, cet ouvrage, donc, L'homme qui marche, qui contient à la fois votre récit et ce fameux cercle de la marche, vous l'avez publié au début de 2020 et ça a coïncidé à quelques semaines près avec le début de la pandémie. Donc, ça vous a forcé un peu à mettre en veilleuse vos projets de conférences, d'ateliers que vous souhaitiez faire à partir de l'ouvrage. Vous avez décidé de vous investir autrement dans la promotion de la marche, notamment en faisant parvenir à chaque jour, depuis avril 2020, une pensée quotidienne sur la marche à toute une liste de personnes intéressées. Alors, parlez-nous un peu de ça, cet envoi quotidien de pensée.
Ben oui, effectivement, Michel, je voulais, en fait, avec le lancement de mon livre au début de 2020, y greffer des conférences et des ateliers. Évidemment, la pandémie et surtout le confinement est venu mettre un frein à tout ça. Alors, au lieu de faire des conférences, des ateliers, j'ai décidé d'envoyer une pensée du jour à une centaine de personnes, ceux et celles qui avaient acheté le livre, et des amis, des connaissances, et ainsi de suite. Et le but de la pensée du jour, c'était de nous motiver et de nous aider à passer le confinement, dans le fond. Donc, j'envoyais cette pensée du jour, et c'est venu greffer à ça une photo et des fois deux photos pour nous faire rêver un peu de peut-être partir en voyage. Alors,
en parlant de partir en voyage, quand on reçoit votre pensée aussi, on reçoit un peu d'informations sur le défi que vous vous êtes lancé depuis janvier 2021, c'est-à-dire de faire un tour du monde virtuel de rien de moins que 40 075 kilomètres. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette idée-là, de votre tour du monde virtuel?
Oui, ben en fait, c'est l'idée du tour du monde virtuel. Bon, écoutez, puisque nous sommes en pandémie, puisque nous ne pouvons voyager, pourquoi pas accumuler les kilomètres que l'on parcourt tous les jours et le calquer à justement un tour du monde? Et un tour du monde est à 40 000 kilomètres. Donc, je me suis dit, à tous les jours, on marche 5 kilomètres, 10 kilomètres. C'est une façon de se motiver et peut-être de voyager sur place. Et j'y ai ajouté cette année le défi de marcher 4 000 kilomètres. Donc, 4 000 kilomètres en 2021. Et je l'ai accompli à 4 001 kilomètres. Alors, juste à la limite.
Bravo, bravo.
Juste à la limite. Et ça peut paraître énorme, 4 000 kilomètres, mais quand vous y pensez bien, c'est environ 11 kilomètres par jour.
Donc, ouais, faut le faire quand même. Là.
C'est la régularité, justement, de tous les jours s'assurer, en moyenne, de parcourir 11 kilomètres, soit 2-3 kilomètres certaines journées, 15-20 kilomètres un autre jour. Mais somme toute, c'est assez motivant de calculer tous les jours sur son calendrier ou sur son bloc-notes, le nombre de kilomètres parcourus et se donner un objectif, soit annuel, soit mensuel, même par semaine. Je vais marcher X nombre de kilomètres. C'est très motivant. Et je le recommande.
Vous l'avez pour le prochain 10 ans, là, à 4 000 kilomètres par année, là. C'est pas prêt de se terminer.
Non, et puis, en fait, si j'imite plutôt ce grand marcheur québécois qui est Jean Béliveau, lui a parcouru 75 kilomètres à faire le tour du monde, mais lui, il y a mis quand même une douzaine d'années, je crois.
75 000, probablement.
Oui. Oui, oui. Ouais. Alors, 75 000 kilomètres, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Ouais. Ben, finalement, vous avez décidé d'intégrer toutes ces composantes dans le site Internet qui porte le nom de votre projet, donc jemarchepartout.com, auquel vous avez souvent référé dans les émissions précédentes. On peut y acheter les versions en français, en italien ou en espagnol du livre, en format papier ou électronique. Et puis ce site permet aussi d'accéder aux épisodes de notre émission ici, Marcher vers le bien-être, qui sont archivés là de manière permanente avec des ressources complémentaires. Et puis finalement, sur jemarchepartout.com, on peut même s'inscrire pour recevoir des mises à jour de votre projet. Alors, pouvez-vous nous dire en un mot un peu comment vous voyez l'évolution de tout ça dans les années qui viennent?
Oui, ben en fait, Michel, vous avez raison. À part le livre, il y a la recherche pour les émissions de radio, la rencontre aussi de personnes fascinantes qui m'ont mis sur des pistes extraordinaires et le site comme lieu de rassemblement de toutes ces informations. Comment j'entrevois l'avenir? Probablement un autre livre ou deux, un blog, maintenir le site, bien sûr, et j'aimerais beaucoup reprendre mon idée du début, soit des ateliers, des conférences, créer un lieu d'échange sur la marche, participer aussi à des activités de groupes tels que Santé à pied, Sans traces, que nous avons reçu ici à l'émission. Et j'aimerais beaucoup parler ou participer plutôt à des activités communautaires qui touchent la marche pour rendre à la communauté ce que j'ai reçu depuis tellement d'années, en fait, participer au développement communautaire. En fait, Michel, il y a tellement de potentiel, de belles choses que l'on peut faire grâce à la marche que je ne pense pas que ce soit les idées qui manquent. C'est peut-être le temps qui va manquer, mais pas les idées.
Comme on dit, vous êtes un retraité, pas juste actif, hyperactif. Eh bien, merci beaucoup, en fait, chères auditrices et chers auditeurs, comme vous pouvez le voir, Marcher vers le bien-être s'inscrit dans un projet plus vaste qui vise à vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, des bienfaits de tous ordres de la marche quand on la pratique sur une base quotidienne. Alors, c'est ce dont Denis va continuer à s'entretenir avec Michel Hamelin après la pause. Et Denis, je vous rends maintenant votre micro d'animateur.
Et merci beaucoup, Michel. Ce fut un agréable plaisir, vraiment, de partager avec vous ces souvenirs d'enfance. Merci beaucoup, Michel. Chers amis, bonjour. Et oui, et maintenant, je suis de ce côté du micro, pour ainsi dire, et je tiens à remercier encore une fois Michel de cette très bel échange. Merci beaucoup, Michel. En effet, la deuxième partie de cet épisode nous permettra d'approfondir les nombreux bienfaits de la marche pour soi et pour les autres, en compagnie d'un autre grand marcheur et d'un autre Michel, Michel Hamelin. Vous habitez Lévis, vous êtes un bon ami de notre chroniqueur et collaborateur Michel O'Neill, et la marche vous habite depuis plusieurs décennies déjà. Vous avez travaillé durant plus de 35 ans au gouvernement du Québec, notamment comme très haut fonctionnaire dans différents mandats, dans la plupart gravitait autour des enjeux de l'égalité des chances, de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, du vieillissement de la population et de la qualité de vie des aînés. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Votre vie professionnelle a aussi grandement contribué à votre implication sociale à la retraite et je m'empresse d'ajouter qu'en grande partie par le biais de la marche. Nous y reviendrons dans quelques minutes, mais d'abord, expliquez-nous, Michel, comment la marche s'est graduellement imposée dans votre vie jusqu'à devenir une partie intégrante de votre existence.
Oui. Ben, Denis, d'abord, je vous remercie encore de cette opportunité que vous m'offrez de parler de la marche. Contrairement à vous, je suis pas né marcheur. La marche est venue un petit peu plus tard pour moi. À l'origine, je marchais très peu. C'est dans les années 80 que sont survenus un certain nombre d'événements qui m'ont fait devenir graduellement un marcheur et je vous en nomme deux qui sont pour moi curieusement des tournants. J'étais un grand joueur de badminton et de squash dans les années 80 et dans les années 70 aussi. Je me suis sérieusement blessé, j'ai dû abandonner. Ces sports, malheureusement. Et pour maintenir la forme, pour réintégrer dans ma vie un exercice régulier, j'ai commencé à marcher pour aller au travail. Un peu comme vous, je vous écoutais tantôt. J'ai commencé à marcher tranquillement pour aller au travail, un bon 7-8 kilomètres par jour. Donc, c'était facile, 4 allées, 4 retours dans des magnifiques secteurs, les plaines d'Abraham, entre autres. Et je vous avoue que j'ai persévéré jusqu'à ma retraite. L'autre élément déclencheur, quasiment en même temps, fut ma découverte de l'univers extraordinaire des oiseaux. J'ai commencé à observer les oiseaux dans les années 80, et je vous dirais très rapidement, ce loisir passion, ben, m'a fait marcher partout et tout le temps. Donc, dans ces années-là, la marche, graduellement, est devenue, mon Dieu, je pourrais dire mon instrument. C'est devenu mon moyen de transport, mon exercice. Mon moyen aussi, ou mon levier préféré pour satisfaire ma passion ornithologique.
Oui, disons. Oui.
Fait que c'est venu comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que je marchais, j'ai réalisé que la marche m'apportait plus que des oiseaux au bout de mes jumelles. J'ai réalisé que la marche, vous le disiez tantôt, Denis, nous met dans une disposition extraordinaire. Par exemple, quand on l'utilise comme moyen de transport pour le travail, c'est clair qu'une grande partie de la planification de mes journées se faisait dans ma marche de mon domicile au travail. C'est clair aussi que mon bien-être était énorme en quittant le travail, d'avoir cette marche-là à faire pour me libérer l'esprit des tracas de la journée, pour me remettre en mode de vie familiale ou personnelle. La marche, donc, rapidement, petit à petit, m'a fait prendre conscience que me mettait dans un état de disponibilité ou de sensibilité qui m'aidait à réfléchir, qui m'aidait à penser, qui m'aidait aussi à trouver des idées. Et ça, vous l'avez mentionné tantôt, je l'ai découvert très rapidement. Et j'en ai profité beaucoup. J'ai même utilisé souvent la marche pour chercher des idées. Mais bref, écoutez, je me ramasse en disant que j'ai donc commencé à marcher ainsi. J'ai marché de plus en plus parce que je cherchais de plus en plus pas seulement les oiseaux et les fleurs, mais aussi les autres bénéfices que procurait la marche.
Nous allons en parler tout à l'heure parce que j'aimerais bien avoir vos commentaires sur ce fameux cercle de la marche de Francesco.
Oui.
Nous avons, lors de notre conversation il y a une semaine, je crois, mentionné que la retraite a été un espèce de moment déclencheur pour vous. Il y a environ 12 ans, si j'ai bien compris, vous êtes entré dans, je pourrais peut-être appeler une autre dimension de votre vie de marcheur. Et il y a une expression que vous m'avez confiée que j'aime beaucoup. Vous m'avez dit, j'ai baissé mes jumelles lorsque je faisais de l'ornithologie, je contemplais les oiseaux et tout à coup, j'ai baissé mes jumelles. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Des notes, vous.
Beaucoup, oui.
écoutez, je vous le disais en terminant le premier, ma première intervention, j'ai évolué et j'ai pas cessé d'évoluer dans ce loisir de la marche. Et effectivement, à ma retraite, j'ai réalisé que en baissant les jumelles, les bénéfices de la marche s'accentuaient. Pour moi, baisser les jumelles, Denis, c'est une image. C'est une image qui réfère à, comment dire, une disposition d'esprit différente, une posture différente. Baisser les jumelles, si on continue dans l'analogie ornithologique, ça me libère d'attentes du genre trouver l'oiseau, en trouver le plus possible, les compter. Trompez-vous pas, mes jumelles sont jamais bien loin, au contraire. Mais c'est une position ou un état d'esprit complètement différent. J'ai réalisé, en prenant conscience de ça, que la marche, je vous disais tantôt, c'était mon instrument au départ.
Oui.
Il y a eu un renversement. ça a passé d'un instrument à une finalité. J'ai commencé à marcher pour marcher. J'ai commencé à baisser mes jumelles, c'est-à-dire à sortir gratuitement, parce que j'y trouvais un bénéfice énorme. J'ai commencé à marcher en cessant de courir après toutes sortes d'affaires, mais en me contentant puis en me rendant disponible à ce qui se présentait à moi, aux grandeurs de la nature, à ce qui m'entoure, à la réflexion, à la méditation, à moi-même. Il y a un vieux sage qui disait la pensée puis la réflexion, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Ben, c'est ça. Je recherchais ça. Je recherchais ça. Mais en fait, c'est je vous dirais, je l'ai noté pour vous la refiler comme il faut, c'est Christian Bobin qui a le mieux expliqué ce que je ressentais, puis mon virage, que j'ai jamais cessé de cultiver ou de creuser. Il disait, Christian Bobin, j'ai accroché mon cerveau au porte-manteau. Je suis sorti et j'ai fait une promenade parfaite. Je vous dirais que c'est baisser mes c'est jumelles, juste. C'est ça que ça veut dire pour moi. Vous allez me dire, c'est pas évident parce que le cerveau, c'est pas une bête qu'on dompte facilement. Mais avec la pratique, on y arrive.
C'est le petit hamster, comme on dit, qui tourne toujours.
Oui. Mais il se dompte avec la pratique.
Et avec la marche.
Avec la oui, exactement.
Ben justement, revenons au cercle de la marche de Francesco dans le petit livre L'homme qui marche partout. Parmi ceux-ci, il y a effectivement, et vous l'avez. Vous en avez fait allusion il y a quelques instants, l'activité physique par excellence. Du point de vue physique, parce que vous faisiez beaucoup de sport et de sport qu'on pourrait dire, ben, peut-être pas violent, mais
violent.
Le squash.
C'est violent.
Je l'ai fait à quelques reprises et je me suis fait blesser, puis bon, j'ai arrêté d'en faire.
Oui.
Mais
oui.
Ce sont des sports, en fait, qui maintiennent la forme quand même.
Oui.
Au niveau du physique, est-ce que vous avez vu des changements suite à la marche prolongée?
Ah oui, tout à fait. Écoutez, j'ai évolué là-dedans aussi beaucoup, là, mais effectivement, à une certaine époque, écoutez, je marchais pour la forme physique, alors je grignotais les kilomètres facilement, là. Et ça m'aidait. Je me suis pas fait des gros bras avec ça, là, mais c'était pas mon objectif non plus. Mais ça m'aidait à tenir une forme physique, écoutez, qui satisfaisait mes besoins et qui me rendait bien. Tout à fait. Je pense que c'est l'exercice le plus complet, si on parle du physique, mais on parlera tantôt du côté plus cérébral. C'est l'exercice le plus complet, je pense, qu'on peut trouver.
Et c'est l'exercice qui est extrêmement bénéfique pour le mental aujourd'hui.
Ouais.
Nous en parlions. Il est très difficile d'être déprimé en marchant.
Oui, écoutez, la marche, ce que je réalise, c'est qu'elle nous amène facilement dans un état, je disais tantôt, de sensibilité, mais dans un état, je dirais, de d'hypersensibilité. On est facilement plus attentif à tout, plus attentif à ce qui nous entoure, plus attentif à d'autres, plus à l'écoute d'autres quand on marche avec des amis, plus attentif à soi aussi. Il y a comme, j'appelle ça une hypersensibilité, mais la marche nous amène à être plus attentif et plus présent à ce qu'on fait, même si, et ça peut paraître paradoxal, mais pour moi ça ne l'est pas, même si en même temps, elle nous aide à ralentir le hamster et nous rend disponible à, par exemple, des idées qui nous viennent ou des réflexions un peu inédites qu'on n'aurait sans doute pas fait en période de turbulence ou de hamster qui tourne trop vite dans sa cage.
Effectivement. Écoutez, Michel, vous en faisiez allusion à ce laboratoire à idées qu'est la marche.
Oui.
Et il y a une note que j'ai prise. Vous avez commencé à utiliser un magnétophone portatif pour prendre des notes et vous l'avez laissé tomber assez rapidement.
Oui. À Ah oui, Denis, on ne peut rien vous cacher. Mais oui, écoutez, quand j'ai commencé à marcher pour aller au bureau, c'est la première chose que j'ai, une des premières choses que j'ai réalisées. Cette marche-là m'amenait dans des, comment dire, dans des sentiers, si je peux me permettre de cette analogie drôle, là, dans des chemins que j'aurais probablement pas empruntés en réfléchissant en arrière de mon bureau. Et c'était très riche pour toutes sortes de choses, pour des idées, pour des solutions à des problèmes. Et j'ai réalisé que souvent, j'en oubliais. Donc, je me suis traîné un petit dictaphone, c'était bien avant les iPhones et notre belle technologie de maintenant. Et après quelques jours, j'ai aussi réalisé que l'outil me sortait de cette disposition-là. J'étais comme, pas intimidé, mais je marchais en regardant mon dictaphone, puis là, c'est comme si il m'avait privé ou sorti de cet bel état d'esprit générateur d'idées. Alors je l'ai laissé tomber, puis je me suis dit tant pis si j'en oublie, les idées qui me viennent et que je retiens, ce sera toujours ça de pris. Mais j'ai trouvé que l'outil était comme un peu contre-productif.
Ouais, en fait, j'ai fait un peu la même expérience il y a plusieurs années, et le simple fait d'arrêter ce moment de réflexion, de chercher ces mots, de l'enregistrer sur l'appareil, ça détruisait le rythme, pour ainsi dire, n'est-ce pas?
Exactement.
J'ai une autre question, Michel. Puisque nous avons parlé de marcher avec les autres, les amis, la famille, et ainsi de suite, êtes-vous un marcheur solitaire? Est-ce que vous marchez seul? Vous marchez avec d'autres? Qu'est-ce que vous préférez?
Tout. Tout. Oui, je vous dis, moi, je marche pour marcher. J'adore marcher seul. J'ai plein d'amis avec qui, j'ai beaucoup d'amis avec qui je fais des marches. On se planifie des moments. On a même des routines. J'ai des routines avec un ou deux amis quasiment hebdomadaires où on marche pas toujours très longtemps, mais la marche, oui. La marche, je le disais tantôt, nous dispose aux autres. Marcher avec des amis, c'est comme si, ensemble, on se retrouvait dans une disposition un petit peu différente, un petit peu relaxe et très attentive, qui permet les beaux échanges, qui permet peut-être des échanges qu'on n'aurait pas, ou qu'on aurait peut-être moins facilement dans un bar autour d'une bière, là.
Oui.
Alors donc, j'apprécie les deux et je recherche les deux.
Excellent. Et lorsque vous étiez au travail, comme fonctionnaire à Québec, est-ce que vous aviez des réunions de travail à pied? C'est devenu une habitude maintenant, mais...
Non, et je suis jaloux de ça. J'aurais beaucoup aimé tenter cette expérience-là. J'ai aussi entendu dire que plusieurs s'y adonnaient, là. Je suis rétrospectivement jaloux, envieux de ne pas l'avoir fait.
Parce qu'on parle de Steve Jobs, par exemple, qui faisait beaucoup de ses réunions en marchant et d'autres, et c'est devenu un peu à la mode. Et ça se comprend parce que la marche active l'oxygénisation du cerveau, en fait, le rapport entre les personnes. Et il y a même des personnes qui nous disent que lorsqu'ils parlent au téléphone, ils se lèvent debout parce que justement l'activité les stimule un peu.
Oui.
Alors, c'est tout le rapport de la marche à l'activité mentale, si on veut.
Exactement.
Vous aimez la nature, l'ornithologie, en fait. Et j'imagine que la marche... Vous avez derrière chez vous même une petite forêt, n'est-ce pas?
Oui. Ah, écoutez, le parc de la Martinière... J'espère que la ville de Lévis va me donner un cachet là, pour la publicité. C'est un parc extraordinaire. C'est une forêt, Denis, écoutez, qui fait presque deux fois la grandeur des plaines d'Abraham. Mon ami Michel, qui vous interviewait brillamment tantôt, la connaît bien en tant qu'ancien résident de Lévis. Et c'est un petit bijou, une forêt intacte, diversifié, accès aux fleuves, champs, friches, vieilles forêts, jeunes forêts. Écoutez, c'est un privilège. Puis c'est quasiment dans ma cour.
Et vous y adonnez assez souvent, j'imagine, l'été, hiver, les quatre saisons.
Oh, les quatre saisons, puis j'ajouterais quotidiennement. Il n'y a pas beaucoup de journées où je ne vais pas marcher dans cette forêt-là, que ce soit à 15 minutes ou que ce soit à 3 heures, j'y vais presque tous les jours. Et c'est drôle, on parlait des autres tantôt, Denis, oui. Bien, une petite réflexion que je me suis fait récemment, parce que la ville de Lévis a entrepris de rendre les pistes d'hiver un peu plus confortables pour les marcheurs. Et donc, des skidoo passent là, pour les rendre un peu plus, rendre la surface un peu plus dure. Et pandémie aidant, ben, ma belle forêt où je marchais tout seul était toujours belle, mais je suis plus tout seul. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui la fréquente. Et c'est très intéressant, l'évolution de ma réflexion là-dessus. J'en étais un peu. Ça a commencé l'an dernier, ça j'en étais pas indisposé, là, mais tu sais, je me retrouvais avec plein de monde et je trouvais ça peut-être un petit peu moins agréable. Les gens ont pas cessé de fréquenter dans l'espèce de petite embellie de pandémie cette forêt. Au contraire, il y en a de plus en plus et dans les dernières semaines, je me suis surpris à être heureux de ça. Heureux de ça, puis je pense que c'est le fun de voir, puis ça m'a animé dans beaucoup de mes projets d'ailleurs, que des forêts comme ça servent au plus grand nombre, que les gens les utilisent, partagent ces feelings de bien-être et de comment je pourrais dire, de richesse de la nature. Et je vous dirais plus vous avez dans votre cercle une petite rubrique qui s'appelle « Changer le monde », là, je me dis, plus il y aura de proximité des gens avec la nature, plus il y aura d'appréciation des gens de la nature, plus il y aura d'occasion d'y aller. Plus on la connaîtra, plus on la respectera, plus on la trouvera importante et plus on la protégera. Donc, ça m'amène toute une réflexion intéressante, cette espèce de comment je pourrais dire, d'habitude nouvelle que beaucoup de personnes prennent de sortir dans cette belle forêt derrière chez moi.
Et la nature, l'amour de la forêt, vous a motivé à mettre sur pied quelques projets, seuls ou avec d'autres, pour le bienfait de participants, de citoyens parfois moins fortunés. Nous allons en parler dans quelques instants, tout de suite après la pause. Un dernier commentaire peut-être, oui. Michel, sur oui. ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez libre lorsque vous marchez?
Oh mon Dieu, oui. Oh oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça. Puis, avant de lire votre cercle, je ne l'avais pas formulé comme ça. Mais oui, tout à fait. Écoutez, je parlais de gratuité tantôt. Voilà un exercice physique et mental qui se fait sans préavis, sans planification, sans équipement. Et je le pratique avec de moins en moins d'attente. Donc, oui, effectivement, il y a un sentiment de liberté très intéressant qui se dégage de la pratique de la marche. Oui, tout à fait.
Vous êtes à marcher vers le bien-être et nous sommes en compagnie de Michel Lamelin, un grand marcheur qui, au fil des ans, a mis sur pied, parfois seul ou avec d'autres, comme je le disais tout à l'heure, divers projets pour faire bénéficier au plus grand nombre des bienfaits de la marche à pied, en nature et dans plusieurs contextes. Alors Michel, je pense entre autres à un réseau de mangeoires de pistes hivernales au Cap Tourmente, au projet Lac-Édouard, au projet Fleur, au manoir de la Pointe à Platon, en fait une foule de projets. Qu'est-ce qui vous a motivé à les mettre sur pied?
Oh mon Dieu, Denis, écoutez, un fil conducteur dans tout ça, Peut-être que je reviendrai à notre dernière intervention. C'est l'importance pour moi du partage. L'importance pour moi que ces bienfaits-là que je ressens, le plus grand nombre puisse les ressentir. L'importance pour moi que les grandeurs, je vous dirais, incroyables de la nature, ben, soient pas réservées juste à un certain certain nombre de personnes que je qualifierais de privilégiées, mais soit plus facilement accessible à tout le monde. Donc, c'est beaucoup. Toujours ce qui m'a motivé, ou si je peux le décrire ainsi, le petit fil conducteur qui a amené mes différentes implications dans différents projets.
Et parce que tous les projets tournent évidemment autour de la nature et l'accessibilité à la nature. On parle de fleurs, de mangeoires et ainsi de suite, pour les oiseaux, bien sûr. Et il y en a un en particulier, c'est votre dada, c'est votre petit bébé, je pense. Il a pour nom le projet Accès Nature.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que je trouve ce projet non seulement fascinant, mais il pourrait motiver d'autres personnes partout dans la province à mettre sur pied des initiatives semblables. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre petit bébé, encore une fois, Accès Nature. C'est quoi?
Ben, Denis, merci beaucoup de m'offrir l'occasion de parler de ce bébé qui n'est pas juste le mien, en passant d'ailleurs, là. Mais Accès Nature, écoutez, on parlait d'éléments déclencheurs tantôt, ou d'idées. À ma retraite, je cherchais des projets, je voulais m'investir de façon différente et lors d'une marche au Cap-Tourmente, je pourrais vous retrouver l'endroit, j'y pense à chaque fois que je passe devant cette roche, il m'est venu un déclic. Je vous entendais parler tantôt de déclic, un déclic là d'une clarté inouïe. J'ai toujours, comme vous l'avez mentionné en introduction, gravité autour des enjeux d'égalité des chances et de lutte à l'exclusion. Et je me disais, quelle tristesse et même quelle injustice que des personnes, à cause de leur isolement ou de leur situation socio-économique, voire de leur handicap, quelle tristesse, quelle injustice qu'elles soient privées de ces bien-être incroyables qu'on retire de la marche, et particulièrement de la marche en nature. Alors, le déclic est venu là. Je me suis dit, ben coudonc, on va régler ça. Je vais offrir à ces personnes-là qui autrement ne pourraient pas le faire, justement des occasions de marche puis d'immersion en nature. Mm-hmm. Comment? Ben, en les amenant avec moi. Aussi simple que ça, mais en fait, c'était pas simple du tout, là. Mm-hmm. Aussi simple que ça, parce que je voulais que ce soit pas, comment dire, ad hoc, ou je voulais que ce soit beaucoup plus, institutionnel comme projet. En bon fonctionnaire, je l'ai dessiné. Mm-hmm. Et j'ai trouvé un organisme communautaire qui l'a adopté et m'a autorisé à être le bénévole qui faisait les sorties. Alors, depuis ce temps-là, je vous dirais, depuis 10 ans, le service amical Basse-Ville, où je travaille, parraine ou accueille dans son rang le projet Accès Nature, qui, depuis le début, bon an, mal an, si j'exclus les 2 ans de pandémie qui nous ont comme stoppés dans notre élan, permet à des gens, je vous dirais, on fait une quarantaine, cinquantaine de sorties par année, permet à des personnes, en petits groupes, 2-3 personnes à la fois, de passer des journées entières dans ce que je pourrais qualifier des plus beaux endroits du monde qui sont chez nous, le Cap-Tourmente, le parc La Jacques-Cartier, le domaine Joly, Mézeray, j'en passe, le Marais Provencher. Mm-hmm. Alors, avec un bon ami à moi, Paul Deschênes, nous formons des petits groupes aidés par une travailleuse sociale du service amical Basse-Ville, sur lequel je vous dirai un petit mot tantôt, et on rencontre les 2-3 personnes qui viennent avec nous dans notre voiture personnelle, Paul et moi. On se présente. L'objectif aussi de ce projet-là est de briser la solitude, de créer des liens, de créer des occasions de succès aussi. Ces personnes-là, très souvent, ne sont jamais ou presque jamais sorties de la Basse-Ville. Il y a une certaine appréhension à aller en nature aussi. Donc, on se rencontre, on se présente, on choisit un parcours particulier. Et on part le matin. Leur seule contribution attendue, c'est de s'amener un petit pique-nique et on revient en fin d'après-midi. Les marches et les sorties varient, bien sûr, en fonction de l'état des personnes.
Oui.
La travailleuse sociale qui gère ces groupes forme des groupes tout à fait homogènes de personnes qui ou bien peuvent marcher et on adapte les sorties en conséquence, ou de personnes qui sont à mobilité très réduite, voire pas mobile, mais nous les amenons en nature quand même. Et Denis, faut que je me ramasse là, parce que quand je parle de ça, je ne tarie pas. C'est les personnes qui reviennent de là, écoutez, ils sont changés. Ça change leur regard. Je veux pas dire que ça change leur vie, mais j'ai quasiment envie de le dire, parce que pour plusieurs personnes, ce sont des expériences uniques qui même en ont fait pleurer une coupe au Cap Tourmente puis dans Vallée de la Jacques-Cartier devant des beautés puis des petites marches. À ce point-là, qu'ils avaient jamais fait de leur vie. Alors, Accès Nature, c'est le service amical Basse-Ville qui l'accueille. Puis le lieu est important aussi parce que c'est un organisme qui ou dont la raison d'être est l'amélioration de la qualité de vie des personnes vulnérables qui vieillissent en Basse-Ville. Alors, on est dans un bassin très propice à l'identification de personnes qui profitent au maximum de ce genre de sortie-là à beaucoup, beaucoup d'égards. Estime de soi, réussir à faire une expérience nouvelle, rencontrer des personnes avec qui on partage un moment comme ça. Le service amical Basse-Ville, c'est une grosse business communautaire qui, bon an, mal an, avec toute sa gamme de services, rejoint pas loin de 1500 personnes par de l'aide à domicile, de la popote roulante, du transport pour fins médicales, de la gériatrie sociale en communauté, puis tout un secteur d'activités sociales et culturelles dans lequel s'inscrit Accès Nature.
Vous parliez de la réaction des participants sur les lieux même,
oui.
Cet épanouissement à la vue d'une si belle nature. Est-ce que vous avez remarqué des changements aussi dans leur comportement suite aux
oui.
visites dans la communauté même, au jour le jour? Est-ce que ça a transformé leur vie, en fait?
Écoutez, je ne généraliserai pas, mais fréquemment, ça a modifié, sinon la vie, au moins des aspects de la vie de plusieurs personnes. D'abord, parce que tout le monde veut revenir. Alors, c'est pas pour rien qu'un de mes bons amis est devenu bénévole, mon ami Paul, heureusement, qui est là, parce qu'on partage cette affluence. Donc, on veut revenir, puis je vous dirais plus, de façon plus intéressante encore, c'est que chez beaucoup, beaucoup de personnes, ça ouvre une grille de lecture ou une façon de voir leur environnement de façon différente. Je donne un exemple. J'ai fait des sorties urbaines aussi avec ces gens-là parce que, vous le savez, Denis, dans la ville de Québec, il y a des parcs extraordinaires. Donc, du service amical, par exemple, auberge de la rivière Saint-Charles, il y a 10 minutes à pied. Alors, j'ai fait plusieurs sorties printanières pour admirer les fleurs, les oiseaux sur le bord de la rivière Saint-Charles. Plusieurs de mes participants n'ont jamais cessé de le faire. Plusieurs de mes participants participantes me reviennent en disant « Michel, je les ai revus, les anémones du Canada, c'est pas mal extraordinaire, je sais où ils poussent, je les attends à chaque année. » Donc, je prétends pas, écoutez, modestement, là, ça change pas la vie de personne, mais ça leur donne une manière de voir leur environnement de façon différente.
Parce qu'on parle de ces beaux emplacements, mais il y a aussi les parcs dans la ville. Il y a
oui.
les plaines d'Abraham pour ce qui est de Québec.
Oui.
Donc, c'est la nature qu'ils découvrent ou redécouvrent.
Oui, puis qu'ils apprennent à voir avec des yeux nouveaux. Dans le sens où la nature est riche de toutes sortes de choses, est riche de faune, est riche de flore, est riche de promeneurs aussi. Vous le disiez tantôt, puis c'est tellement vrai, c'est des occasions de rencontre aussi fréquemment, avec des participants, on a jasé avec des gens qui empruntaient les mêmes sentiers que nous, et c'était d'une grande richesse réciproque. Alors oui, tout à fait. Je vous dirais que nous rend conscients de la beauté de notre environnement, qu'il soit urbain ou qu'il soit moins urbain ou forestier.
Alors, Michel, comment vous entrevoyez l'avenir de Accès Nature?
Oh mon Dieu, écoutez, deux choses. D'abord, on est entre parenthèses depuis presque 2 ans. Je trouve ça très triste. Et vous savez, nos participants sont des gens dont la vulnérabilité découle beaucoup de leur isolement.
Oui.
Et de leur exclusion. Alors imaginez dans quel état ils sont avec la pandémie et avec notre organisme communautaire qui ferme les portes là, essentiellement. Donc, ils sont dans un très mauvais état. Ce que j'entrevois, c'est la fin de ce maudit virus le plus rapidement possible et qu'on reprenne nos activités, notamment Accès Nature. Puis, je vous dirais, ce que j'entrevois aussi... pour faire du pouce sur une invitation que vous m'avez faite dans votre introduction, ce que j'aimerais entrevoir, c'est que vos auditeurs, vos auditrices, marcheurs, marcheuses, se saisissent de cette idée. Il n'y a pas de trademark là, pour Accès Nature. L'idée est très simple, elle n'a pas besoin d'être sur une grande échelle ou parrainée par une organisation communautaire. Amener une fois ou deux par année dans nos promenades, comme marcheur, marcheuse, quelqu'un qui autrement ne pourrait pas le faire.
Oui.
C'est à peu près le plus beau geste qu'on peut faire pour nous, parce que c'est très satisfaisant aussi, mais pour les personnes qui en bénéficient, sans aucun doute, moi, à l'avenir, j'aimerais voir des Accès Nature se multiplier partout.
Alors, Michel, soit dans la structure ou dans l'esprit surtout, c'est le souhait que l'on fait que Accès Nature soit reproduit un peu partout au Québec et même au-delà. Michel, ce fut un réel plaisir de vous avoir à l'émission aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et nous allons placer sur le site quelques références pour que les personnes puissent avoir accès à toutes ces belles informations. Merci beaucoup, Michel.
C'est moi qui vous remercie, Denis, de m'avoir offert ce petit temps d'antenne.
Alors, chers amis, avec cette belle conversation avec Michel, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h et les vendredis à minuit. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet « Archives du site ». Aussi, sur le site jemarchepartout.com, sous l'onglet Radio-VM, où vous trouverez également des descriptifs et références pour chaque épisode. Je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui, d'abord notre chroniqueur et collaborateur et, pour l'occasion, co-animateur Michel O'Neill, le serein pèlerin, de même que Michel Amenin, grand marcheur de la belle région de Lévis. Et à la technique, un gros merci à Daniel Fortin pour avoir si habilement orchestré cette rencontre virtuelle entre nos invités de Québec et de Lévis. Et comme toujours, merci à toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec ce proverbe tibétain, « Le secret pour bien vivre est longtemps. Manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. » Bonne route et à la prochaine!